vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié,
vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale,
le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h37, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence est là. Tiens, avant d'accueillir Fred Hermel dans quelques instants, je vous lis quelques réactions sur Direct Studio. Hussein, vous savez, notre fidèle auditeur qui suit de près le championnat turc, qui nous dit « Moi, avant, j'étais contre la Super League. » Donc lui, il est supporter de Fenerbahçe, hein, je rappelle. Mais je me dis que même dans la Ligue des Champions actuelle, mon équipe n'a aucune chance d'y faire bonne figure, puisqu'il y a déjà un gouffre énorme entre les énormes clubs européens et les équipes de seconde zone. Donc ils se considèrent déjà comme une équipe de seconde zone, en fait, finalement, à Fenerbahçe. Et puis Olivier, qui avait écrit une très bonne contribution pour le site afterfoot.media, site de la revue de l'After, il dit « Ah, la Super League, c'est l'avènement finalement de quoi ? De l'idéal communiste ? Quel plaisir d'entendre Daniel passer à l'extrême gauche. » Oui, en sens égalité, traitement, et etc. Voilà.
Julien, le 26 août dernier, Ferran Soriano, tu sais à quel point cet homme est important, c'est le vrai patron de Manchester City. Il déclare le 26 août dernier, la Champions League, ça n'est pas la priorité de Manchester City, nous on joue pour gagner la Première Ligue.
Ouais, ouais, non, mais après, Pep dit l'inverse, hein. Pep dit, la Première Ligue, c'est ce qu'ils veulent, la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent. La Première Ligue, ils viennent d'en rencontrer, d'en gagner 4 sur les 5 dernières années. Ils en ont assez, je peux te dire.
Oui, donc
que
ils décident que, accessoirement, Chichi, cette année, ça peut être la priorité. Puis après, non. Tu vois, on n'est plus du tout dans la réflexion d'argent qui était, tu joues ton championnat, tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu y vas, c'est un honneur, t'as envie de la gagner. Dire, la Première Ligue aujourd'hui, il y a tellement de force dedans, tellement de clubs que c'est, moi je te dis, vous êtes créé une Super League à vous, et nous on est là derrière en plus tu sais bien que la plupart des clubs français, qu'est-ce qui se dit la plupart du temps, même nous on relaie cette idée-là qu'on entend sur le terrain quand t'as un bon joueur. Je crois que c'était Eric qui disait ça en rigolant, Dimeco dans Moscato Show récemment, mais il avait raison derrière la caricature. Il dit, oh putain, quand t'as un bon joueur et tout, tu trouves toujours un pigeon en Angleterre pour lui refourguer à 30 à 40 millions. Mmh. Bah évidemment, mais les clubs français, ils sont contents de ça. Ils sont super contents. Donc à peine ils ont la moitié d'un bon joueur que déjà le gars s'en va. Je rappelle, je sais pas, il devient quoi, enfin franchement, il faudrait faire la liste des mecs qui sur 2 ans sont allés en Angleterre et faire un bilan de ce qu'ils sont devenus. Entre ceux qui sont allés dans des clubs qu'on ne suit plus du tout. On suit pas, nous, des West Ham, des Aston Villa. Eh, c'est rare, à part être un fondu de Première Ligue, tu regardes quoi le week-end? Déjà, t'as tes matchs à regarder. Si tu regardes City, Liverpool un peu, Arsenal qui en ce moment marche fort. Bon, c'est un peu tout, quoi. Mais tous ceux qui vont dans les clubs en dessous, tu les perds de vue. Mais bon, eux, ils sont super contents, ils ont un salaire énorme, ils jouent dans une Première Ligue qui est fantastique, qui est bien emballée et qui est une sorte de championnat au-dessus de la mêlée, une Super Ligue, à pas d'autre mot, et on les perd de vue tous ces jours-là.
Mais on a vu ce débat-là lors du départ de Boubacar Camara. De
et je pensais à lui quand je parlais.
Tu vois, voilà, on a fait le même avec Thauvin quand il était parti à Newcastle et en plus ça a pas marché. Mais c'est un bon débat. Les Anglais, ils ont une vision.
Fofana qui était à Chelsea là, qui est parti à Chelsea le tout jeune espoir. Bon après lui il a eu des problèmes. Mais enfin bon bref, il y en a eu plein des comme ça.
Il y a un truc, quand même sur ce que tu dis sur les 17 clubs sur 20 qui sont donc déficitaires, qui c'est quand même très inquiétant. Hier, Polo racontait un truc intéressant sur Schalke, Nulfir, club important en Allemagne, qui va tomber. Autant je suis pas inquiet pour les très gros, parce que quelle que soit la compétition européenne qui verra le jour, et comme effectivement eux, ils peuvent s'en sortir. Tu vois, finalement, Haaland, c'est une bonne affaire si tu regardes le prix auquel il a été acheté. Je veux dire, au niveau des gros clubs.
C'est un accident, ça.
Casemiro, c'est, je sais plus combien c'était, 80 pour c'était à peu près pour Manchester. Là déjà, bon, c'est important, mais ces clubs-là, entre guillemets, ils sont capables d'assumer, on va dire ça, Darwin Núñez et compagnie, c'est assumable. En revanche, pour tous les autres clubs de première ligue, tout ce dont parlait Daniel à l'instant, est-ce que ça c'est viable à ton avis, toi, sur la durée? Parce que certes, la première ligue, on se connaît, les droits télé internationaux, etc., ça fonctionne. Mais ce que tu disais sur le côté, on recrute n'importe comment, à n'importe quel salaire. Après, il y a un contre-exemple pour les gros clubs récents, c'est Newcastle, dont on disait que ça allait être n'importe quoi, la gabegie, le machin, et le sportif suit. Donc,
ça a eu du beau jeu en plus.
Ouais, et puis il faut reconnaître que ça,
avec
que ça marche.
Les joueurs, tu sais à quel point on est même parfois déconnecté de la Première Ligue et de ce qui s'y fait. Honnêtement, tu regardes Newcastle, encore une fois, à part si tu es vraiment expert que tu es, la moitié, trois quarts des joueurs ne sont pas des vedettes, ne sont pas des joueurs que tu connais.
Ouais.
Mais on s'attendait à ce qu'ils fassent n'importe quoi avec l'argent.
C'est très étonnant.
Mais la question, est-ce qu'il y a un risque pour une partie de ces clubs qui peut-être seront broyés pour certains et d'autres prendront leur place, hein. C'est ça aussi le système, parce que finalement, après tout, tout le monde, enfin, on s'en moque, hein. Il y a eu des clubs mythiques à un moment donné dont on n'entend plus parler. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a un risque économique pour une partie des clubs, mais pas évidemment les plus gros?
Je pense qu'il y aura toujours un propriétaire qui viendra renflouer les caisses quand il y a besoin. Roman Abramovich avait mis beaucoup d'argent de sa poche pour que Chelsea continue à dépenser, à éponger les pertes, ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a... Le truc, c'est qu'ils sont tous aujourd'hui, quasiment tous, on va dire, avec un propriétaire qui est un des hommes les plus riches du monde, plus ou moins, on va dire, allez, pour globaliser. Donc d'avoir ça en soi, c'est contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui n'a pas de propriétaire qui peut renflouer les caisses avec son argent à lui, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Les Anglais, ils ont une vision un tout petit peu. Déjà, eux, ils disent, ce qui est très anglais, nous, on finance le football européen dans un sens. Les clubs français ont besoin des clubs anglais.
Absolument.
Ils ont besoin de l'argent des pigeons qui vont aller acheter un mec 30 millions qui joue en Ligue 2 ou dans un bas de tableau en Ligue 1. Pareil avec les Allemands. Quand tu vois Georginio Rutter, par exemple, qui quitte Rennes pour aller en Allemagne, je crois qu'il était à Hoffenheim, et maintenant Leeds vient de mettre 40 millions pour le racheter. Et le mec, il a marqué un but cette saison. Donc, à un moment, voilà, eux, ils disent, c'est notre rôle. Mais ils disent aussi. Mais quand en 92 il y a cette refonte de leur première division avec la création de la première ligue, à ce moment-là ils ont su vendre leur championnat, ils ont su vendre leur football. À ce moment-là, il y avait pas des grandes stars. Bon, il y avait Eric Cantona si tu veux, mais il y avait pas des grandes stars, il y avait pas d'étrangers, il y avait rien du tout. Eux aujourd'hui, ils disent, vous pouvez nous critiquer, Tebas peut dire ce qu'il veut sur l'Angleterre et ça, mais voilà, nous on a fait de notre football un produit marketing qu'on vend aujourd'hui sur la période, je regardais encore tout à l'heure, la période 2022-2025. C'est 11 milliards d'euros. Mais 11 milliards d'euros sur les droits télé domestiques et étrangers. 11 milliards d'euros. C'est incroyable. Mais eux, ils te disent, mais pourquoi vous n'avez pas vendu votre football comme ça? Les Italiens, Johan nous le racontait, ils ont fait n'importe quoi dans les années 90. Ben, ils n'avaient qu'à le vendre, leur football.
Mais d'ailleurs, c'est un peu l'histoire, enfin, entre guillemets, de la Ligue 1. Avec CVC et la société commerciale qui essaie de créer ça, mais qui en est loin et de ce modèle-là. Enfin oui, mais une pâle copie à mon avis, parce que ce que tu dis et ce qui est très juste. D'ailleurs, je suis retombé sur un passage du bouquin d'Echo. On avait reçu François Ruffin à cette occasion et il parle évidemment de la naissance de la Première Ligue. Et c'est vrai que quand tu repenses, Julien a raison de le dire, à la date. C'est avant l'arrêt Bosman hein, que la Première Ligue fait ça en 92. C'est Carling, je crois, le premier gros sponsor. Hein, ça doit être ça. Après, c'est la Barclays. Et quand tu lis la progression de ça, tu vois qu'effectivement, quelque part, ils ont été des précurseurs. Parce que le fait d'avoir vendu un produit unique, un feuilleton, en fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une série Netflix avant l'heure, les Anglais. Et donc, aujourd'hui, tu as des tas de gens, y compris en France, hein, d'ailleurs, avec les droits qui sont vendus en France, tu as des gens qui sont fans de foot anglais, quels que soient les matchs. Et moi, je regarde beaucoup, parce que au hasard, tu tombes sur beaucoup de matchs, et évidemment qu'il n'y a pas que du bon. Parce que, tu vois, il y a de l'intensité très souvent, mais il n'y a pas que du bon.
C'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, j'ai vu pas mal de matchs anglais qui étaient franchement pas terribles.
Ouais, alors il y a beaucoup de déchets. Il y a quand même sur les gros clubs, j'ai vu aussi, là, par exemple, avec Arsenal, des trucs.
Merci pour cet éclairage.
C'était un sacré. Mais
là, il reste quelques jours de mercato, donc on fera un bilan à la fin.
Juste pour finir, c'est vrai quand même que ce feuilleton-là, vendu comme ça, et mis en place dès 92, avec une autonomie financière aussi dingue.
Et avec les clubs qui décident.
Et c'est quand même un modèle absolument unique et qui perdure. Alors après, La question, c'est ça. Est-ce que la bulle, l'explication de Julien plutôt rassurante, est-ce que c'est une bulle, c'est une bulle, ça peut marcher, hein, ça peut durer une bulle. Ça peut aussi parfois exploser pour certains.
C'est comme dirait Manu Petit, oui.
Ouais, ça peut aussi exploser parfois, mais pas forcément pour tout le monde. Hein, c'est ça le truc. Après, c'est comment tu t'insères dans le ou pas dans le foot européen, enfin dans les compétitions européennes.
Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars, ciao ciao.
Dans un instant, Fred Hermel qui d'ailleurs a un mot à dire sur ce débat et Paulo Breitner pour évoquer les résultats du soir. À tout de suite.